Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 9e émission de JT Sport, du rugby, du handball, du volley et toute l'actualité du sport toulousaine sera décryptée. Et à mes côtés, Marine. Salut Marine.
Salut Arnaud, bonjour à tous et c'est un très beau plateau qui nous accompagne aujourd'hui.
Je ne connais pas tous les nouveaux, présentez-vous.
Fin de série pour le Stade toulousain. Après 6 victoires de rang, toutes compétitions confondues, les Rouges et Noirs se sont inclinés ce week-end face aux Parisiens du Racing 92. Julien et Victor reviendront avec nous sur ce match. Pour Thomas et Jean-Cyan, il sera temps de débriefer la défaite des Spacers. Ils ont été battus 3-7 à 1, encore face à des Parisiens, ceux du Paris Volley. On réduit le ballon rond et on passera au hand avec Hugo. Le coup de mou du Phoenix face à Saint-Raphaël la semaine dernière et la préparation du match contre Tremblay mercredi, on en parle avec Luke Steins et Philippe Gardan. Petit détour dans les rues de Toulouse avec Adrien qui nous fait découvrir Lilou, la championne de freerun. Et enfin, le tour de la planète sport en fin d'émission avec Maud. Allez, trêve de bavardage, tout de suite le Stade toulousain et la rubrique Caramel et Chistera.
Donc on se tait et on reste concentré sur ce jour ou quoi.
Scénario cruel pour le Stade toulousain ce week-end. En déplacement à la U Arena du Racing, le Stade tenait la victoire après un match maîtrisé. Mais un carton jaune de Tekori puis un essai de Clément Zach plus tard et c'est les Franciliens qui s'imposent 30 à 27. Julien, Victor, que retenir de ce match?
Bon, c'était un match un peu fou. Hein. Il y avait trois essais de chaque côté, du jeu porté vers l'offensive. Enfin, moi, j'ai bien aimé le match du Stade, donc il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Mis à part ces quelques erreurs de concentration sur les fins de match et la fin de première mi-temps, la fin de match, mais franchement, moi j'ai apprécié la prestation. C'était quand même une équipe de Toulouse sans 6 joueurs internationaux. Bézi qui se blesse dès la 18e, chez Slim Colby à l'ouverture, on en parlera plus tard. Sincèrement, la prestation toulousaine, elle est pour moi, elle est bonne.
Ouais, elle est bonne. Après, est-ce qu'il y a grand chose à retenir au final? Parce que les décès qu'ils prennent, ils en prennent 14 points après la sirène, donc sinon ils gagnent assez facilement. Ils n'ont pas été là dans les moments clés. Et ben, comme c'est Hugo Mola qui l'a dit après le match, c'est encore un match où les internationaux ne sont pas là. On sait que le Stade toulousain a pris du retard en début de saison à cause de la Coupe du Monde. Et là, encore une fois, c'est une journée de tournoi et les internationaux ne sont pas là et du coup, Toulouse perd encore.
Ouais, ils ont été dominateurs. Hein. Ils ont été dominateurs toute la rencontre. En fait, je crois que les Racing Men ont mené 11 minutes seulement dans cette rencontre. Mm. Donc voilà, c'est un match que Toulouse a dominé. Que Toulouse a perdu, ça, c'est vrai. Mais voilà, tout n'est pas à jeter, absolument pas. Tout n'est pas à jeter.
Mais il faudra quand même bien retravailler ces moments, ces temps forts, les temps forts de Racing qui ont été quasiment tous convertis. Ouais. Ils ont mis du temps, les Racing Men, à mettre la machine en route, mais quand ils l'ont mise, ils ont pris leur temps, ils l'ont bien fait. Il ne faudra pas que ça se reproduise en phase finale si le Stade se qualifie.
Ouais, et puis ils ont été maladroits, les Racing Men, là, en début de match notamment. Je crois que c'est 13 en avant commis hein, sur toute la rencontre, contre 6 pour le Stade. Donc ils ont été aidés, les Toulousains ont été aidés par les Racing Men en début de match, par de nombreuses fautes techniques.
Ouais, et puis Finn Russell aussi en face, qui avait été peut-être... Bon, c'est au micro de Canal+, je crois, il disait qu'il avait peut-être été... mis sous pression du fait qu'il allait être face à Chasin Colby en 10, moi j'y crois moyennement, mais ouais, l'air de rien, il a eu ses temps faibles, ses temps forts, un peu comme l'image de Racing, quand il a fallu convertir les occasions, lui était présent. Mais bon, c'est sur un coup de pied contré qu'ils perdent du Pichot et Bézi se tamponne. Je ne sais pas si ça a joué peut-être sur son match, mais... Mais voilà, en tout cas, défaite. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à retenir quand même de ce match. Hein. Il y avait peu d'internationaux, enfin, il n'y avait pas les internationaux plutôt. Et le pack, une fois que le groupe sera au complet, je pense qu'il y en a qu'on ne verra plus beaucoup.
Ouais, malgré tout, comme tu l'as dit, Victor, il n'y a pas grand-chose à jeter et surtout pas la performance de Colby. L'ailier sud-africain faisait sa première en tant que 10 et c'est pour le moins une première réussie, c'est ça?
Ouais, non, il est incroyable. Hein. Le gars sait tout faire. Tu le mets à l'ouverture, il s'est buté, Bézi se blesse.
Ouais. On lui fait la vaisselle, ouais. Il fait tout. Quoi.
On lui dit, non, mais c'est incroyable, on lui dit de buter, il bute, il met une pénalité de 50 mètres, une autre en coin.
Il aura qu'une seule dans le match. Hein.
Ouais, bon après, on peut en parler de celle-là, c'est pas la plus difficile, elle est importante s'il la met derrière, même si tu prends un essai derrière, il y a match nul, mais bon, il y a quand même, on va pas lui reprocher ça non plus, 4 sur 5 au pied, il a quand même dit à la fin du match qu'il n'avait pas été à l'ouverture, depuis le lycée. Donc le gars, il est en top 14 contre le Racing, tranquille, sans pression. Il est sur le premier essai de Haki, il fait une passe au large magnifique qui permet le premier essai de péter Haki. Donc franchement, le match qu'il fait, il est incroyable.
Ouais, bah honnêtement, il n'y en a rien à ajouter à mon avis là-dessus. Chasen Colby, de toute façon, bah, je sais pas s'il y a des gens qui n'aiment pas Chasen Colby sur Terre, de toute façon, peu importe où il joue, c'est un joueur formidable, fantastique.
Ouais, on a de la chance d'avoir au top 14, ça c'est sûr.
Merci beaucoup messieurs pour cet éclairage. Avec cette défaite, Toulouse tombe à la 8e place du championnat et la fin de saison va être serrée jusqu'au bout. Les Rouges et Noirs ne comptent qu'un seul petit point de retard sur Clermont, premier barragiste.
Et enfin un petit point 15 de France avec l'alléchant Pays de Galles-France du tournoi Destination qui se profile ce week-end. Cyril Bailly, Julien Marchand, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos font partie de la liste des 28 joueurs convoqués par Fabien Galthié. Coup d'envoi samedi 17h45 au Millennium de Cardiff. Et on quitte maintenant la belle pelouse synthétique de la U Arena pour le superbe parquet PVC des Spacers. C'est l'heure de notre rubrique Smash et Bidouille.
Monster Block, Monster, Monster, Monster Block.
Ce qui n'arrive dans aucune équipe.
Ouais, c'est ouf.
Après leur belle victoire sur Narbonne lors du derby d'Occitanie, les Spacers recevaient le Paris Volley pour la Saint-Valentin au Palais des Sports. Pour le compte de la 21e journée de Liga, les amoureux du volley étaient au rendez-vous, mais malheureusement pas la victoire. Malgré une belle remontée à 1-7 partout, les Toulousains se sont finalement inclinés 3-7 à 1 face à leur adversaire du jour. Non, sans avoir démérité. Une défaite face à une équipe inférieure au classement qui ne rassure pas les hommes de Stéphane Sapina avant leur important déplacement à Nantes ce jeudi. Alors Thomas, Jean-Cyan, que retenez-vous de la performance des Spacers? Qu'est-ce qui explique cette défaite accrochée?
Bah écoute, déjà je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur la défaite, mais plus souligner la belle combativité des Toulousains qu'on a pu voir. Je pense que Thomas serait d'accord avec moi, mais... Enfin, ils ont vraiment été assez impressionnants par moments et assez décevants à d'autres moments, mais je pense qu'il faut aussi retenir les belles performances de certains joueurs, notamment les jeunes qui ont encore été très bons. Donc, enfin, on peut citer toujours les mêmes, hein, Desrouillons Fort, etc. Donc, il y a eu des bonnes choses, mais malheureusement, il y a encore eu trop de fautes et trop de points donnés pour pouvoir arracher cette victoire. Donc, c'est ça un peu qui leur a manqué, la régularité, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Jean-Cyan. C'était un match accroché. À un moment, on a même cru un retour des Toulousains. Mais malheureusement, les Parisiens étaient un peu trop tranchants dans les moments décisifs. Et donc, bon, c'est une défaite amère pour l'équipe.
Justement, on écoute l'entraîneur Stéphane Sapinard qui revient sur cette défaite au micro de JT Sport.
C'est surtout de la déception ce soir pour l'instant. Donc, mais bon, on est tombé contre une équipe de Paris qui a très bien joué. Et on n'a pas su contrarier suffisamment. Je pense qu'on a fait pêcher par un petit peu trop de fautes. Un petit peu trop de fautes de service, un petit manque de réussite, une ou deux décisions qui ne nous arrangent pas trop. Au premier set, il y en a une qui est importante au niveau de l'arbitrage. Mais bon, après, je pense qu'on a été dominés ce soir.
Comme il le souligne, il y a encore eu vraiment trop de fautes. Beaucoup de services donnés, mais surtout beaucoup d'inconstances. On a vu pas mal de sortes de trous d'air des Toulousains donc, qui ont lâché voilà, plusieurs points d'affilée, des fois 5-6, qui ont permis à chaque fois au Paris Volley de se détacher. Et après, bah, forcément, le trou est fait. C'est beaucoup plus compliqué de revenir que quand on est à un ou deux points d'écart. Donc voilà, c'est ça qui était très dommage.
Ouais, à l'image de Pierre Desrouillons, hein, 16 points, meilleur marqueur ex aequo avec Théo Fort. Mais bon, ils ont alterné toujours le très bon et le moins bon.
On écoute justement Desrouillons.
Je pense qu'elle a été un peu à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que des fois, je suis capable de rentrer dans des bonnes séries, mais je suis un peu déçu de les couper par des fautes bêtes souvent. C'est au service, ouais. Mais même en récep, il y a des récepts qui m'échappent. Et voilà, bon, c'est dommage, quoi.
Donc pour vous, c'est vraiment l'inconstance qui pénalise cette équipe?
Bah ça joue, oui, c'est dommage, c'est sûr. Mais après, bon, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que voilà, l'effectif est jeune. Le trio Fort, Desrouillons, Madsen n'a que 20 ans. Donc bon, il faut aussi leur laisser un peu de temps.
Ouais, et on a aussi du coup parlé des moins jeunes. On a du coup le taulier Jorna qui revient, donc 30 ans, donc voilà, c'est vraiment un habitué de l'équipe. Ça semble voilà faire du bien aux Spacers, même si bon, il peut pas porter toute l'équipe à lui tout seul, mais il est, enfin Stéphane Sabinard nous l'a confirmé, il est rétabli de sa blessure au bras, donc peut-être qu'il repassera titulaire bientôt. En tout cas, il a joué une bonne partie du match, donc c'est encourageant pour la suite.
Ouais, on le reverra peut-être lors du prochain match des Spacers avec un déplacement à Nantes ce jeudi, un match qui s'annonce quand même compliqué, non?
Ouais, bien sûr, parce que Nantes, c'est le haut de tableau. Voilà, ils sont très performants en ce moment, ils ont fait plein de confiance en bâton Rennes, Bon, après, voilà, surtout que le match joue aussi sur leur parquet, donc...
Ouais, forcément, ça va être un gros match, un gros gros défi pour les Toulousains, mais on sait qu'ils en sont capables, même si forcément leur défaite de vendredi ne les met pas forcément en confiance avant ce gros déplacement. Mais l'entraîneur Stéphane Sapinard ne veut pas s'arrêter là-dessus, il croit aux chances de son équipe, d'ailleurs on l'écoute à notre micro.
Déjà, on va sortir un peu de celui-là, on va analyser, voir ce qui s'est un petit peu passé, où est-ce que réellement on a pêché avec du recul, et puis essayer de repartir sur quelque chose de plus positif la semaine prochaine à Nantes, mais on sait que ça va être un match difficile. Début d'année, on a joué, début de cette année, on a joué Montpellier, 3e, on a joué Rennes, 1er, on a fait des choses, donc moi je ne doute pas qu'on soit capable de faire des résultats, même contre ces équipes-là.
Bon, après tout, les Spacers ont battu le leader Rennes il y a 2 semaines, alors avec cette équipe, on peut s'attendre à tout. Hein.
Ouais, c'est clair. En tout cas, on espère voir un beau match à Nantes.
D'autant plus que l'enjeu des playoffs commence à se faire sentir.
Ouais, forcément, parce qu'on approche de la fin de la saison. Là, on rappelle que la dernière journée, ce sera le 28 mars, donc dans un peu plus d'un mois. Pour rappel, donc pour les playoffs, on a 8 équipes, les 8 premières au classement qui seront qualifiées. Ça se joue ensuite en quart de finale, demi-finale, etc. Et pour l'instant, Toulouse est 7e avec 30 points, mais seulement 5 points les séparent de 7, le 12e. Donc rien n'est encore joué pour cette participation aux playoffs. Donc il faut qu'ils s'accrochent, quoi.
Ouais, clairement, parce que ça joue dans un mouchoir de poche. Comme le dit Pierre Desrouillon, les joueurs veulent prendre les matchs les uns après les autres.
On envisage à chaque fois les matchs de la même façon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est des matchs très compliqués, le championnat il est hyper serré, tout se joue à 3 points près, donc c'est une victoire ou une défaite. Juste notre dernier match, c'est Nice, peut-être eux c'est un peu mort pour les playoffs, mais après tout le monde est un prétendant aux playoffs, alors on aborde tout le match comme si c'était playoff ou pas. Quoi.
Et bah, comme dit Pierre Desrouillon, il a raison, ça va être compliqué pour Nice, parce que là, ils sont derniers avec seulement 14 petits points. Mais bon, pour les autres équipes, rien n'est joué. Donc voilà, les Spacers vont devoir s'accrocher.
Et bien, on risque de voir de beaux affrontements, alors une fin de saison hyper tendue. Pour rappel donc, prochain match des Spacers, jeudi fin 20 février. Ils déplaceront à Nantes actuelle, 5e du championnat.
Ouais, merci Jean-Cyan, merci Thomas. Hugo vient de nous rejoindre dans le studio, c'est l'heure du hand, des pastis et des roucoulettes.
On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça, mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi.
Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal.
Après une belle performance contre le Paris Saint-Germain il y a 2 semaines, le Phoenix s'est tout simplement effondré face à Saint-Raphaël mercredi dernier. Les Toulousains se sont inclinés 20-18 au terme d'une rencontre entièrement menée par les Raphaëlois. Hugo, que s'est-il passé mercredi dernier pour les joueurs de Philippe Gardant ?
Eh bien, écoute, Marine, c'était un match très fermé. On n'a pas vu beaucoup de buts, comme tu l'as dit, 20-18. Donc c'était un peu un match à l'ancienne, avec deux équipes vraiment basées sur la défense. Toulouse a tout simplement pas réussi à mettre son jeu en place, il faut le dire, bien bloqué par la défense de Saint-Raphaël qui était très haute et qui a imposé son rythme notamment en attaque, et c'est ce qui a perturbé le Phoenix qui est habitué à jouer vite fait en contre-attaque avec des contres puissants menés par Steins, et là bah, finalement ça n'a pas été du tout le cas, ça a été vraiment un duel de gardiens finalement entre Letens et Popescu, et finalement Saint-Raphaël en est sorti vainqueur à la fin.
Ouais, et d'ailleurs, on écoute Philippe Gardant à ce sujet.
On a eu un peu tout faux à Saint-Raphaël la semaine dernière, au niveau de l'attaque notamment. On marque 18 buts, on a pêché sur le tir. Quand on pense qu'on en a marqué 17 en une mi-temps contre le Paris Saint-Germain, là on en marque 18 en un match, on est passé à travers en fait. Et physiquement, on a été un peu juste.
Et pour le prochain match, donc la réception de Tremblay, 13e au classement avec seulement 3 victoires au compteur cette saison.
Oui, effectivement, c'est ça. Il va falloir vite fait se rattraper pour le Phoenix, parce que dans cette année 2020, ça fait mine de rien 2 défaites. Celle du PSG, on s'y attendait, parce que le PSG, c'est une grosse machine. Mais face à Saint-Raphaël, on se disait que l'exploit était possible, et finalement, non. Ils sont tombés dans le piège, et donc là, il va vite falloir se ressaisir contre une équipe qui est en fin de classement, comme tu l'as dit, et qui joue finalement son maintien. Il y a plusieurs armes qu'on peut citer, notamment le demi-centre, alors qu'il y a un nom difficile, Brajacic. Il y a l'arrière Diallo aussi, Borges, donc c'est un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Il y a Noné dans les cages, donc il va falloir faire attention, c'est toujours des équipes piégeuses et qui s'appuient beaucoup sur la puissance de loin, sur les tirs de loin, donc il va falloir faire gaffe pour le Phoenix, comme va le dire encore une fois Philippe Gardant.
C'est une belle équipe, hein. Elle n'est pas forcément récompensée par le travail qui est fourni, d'où l'explication de son classement, mais ça va être
difficile à manœuvrer, effectivement, puisqu'ils ont des tireurs de loin. Nous, on n'en a pas. Donc, il va falloir quand même être très, très vigilant sur le contre, le bloc défensif. Et essayer de les perturber aussi dans leur circulation de balles, parce qu'ils ont... Ils ont à peu près les mêmes encanchements que nous, en fait, mais ils sont plutôt aussi pas mal réalisés, donc voilà, faire gaffe.
Oui, faire gaffe, et surtout, un des joueurs du Phoenix est passé par le club francilien, c'est le demi-centre Luke Staines. On l'écoute au micro de JT Sport.
Je pense qu'ils ont vraiment une belle équipe, et ouais, ils ont des joueurs individuels qui ont vraiment des qualités exceptionnelles, je pense, et c'est surtout ça, oui, les tirs de loin de tous les joueurs poste arrière, c'est vraiment fort. Et après les ailiers, je pense Portal, il est toujours l'ailier droite, il est toujours toujours fort. Et ouais, la défense, c'est aussi vraiment compact et costaud.
Donc voilà, c'était Luke Staines. C'est encore une fois, il va falloir c'est lui finalement la clé de ce Phoenix là, c'est le facteur X. On l'a dit plusieurs fois depuis le début de saison, et il va falloir que il compte vraiment sur lui, le Phoenix, pour véritablement mettre leur jeu en place, ce qu'ils n'ont pas véritablement arrivé à faire finalement à Saint-Raphaël, juste en première mi-temps face au PSG. On a vu qu'ensuite ça avait baissé. Et c'est finalement là, peut-être, que le Phoenix va avoir des difficultés. C'est trouver finalement les ressources pour faire une bonne partie de deuxième partie de saison. Parce que, tout simplement, le Phoenix tire un peu toujours sur la même corde, c'est-à-dire un groupe de 10, 11 joueurs maximum. Il y a des blessés qui vont certainement pas revenir d'ici la fin de l'année. On pense à Peterson. En ce moment, il y a Jovanovic qui vient de revenir. Mais c'est vrai qu'on voit que les physiques, notamment des arrières, sur la base arrière, finalement, c'est moins costaud. Donc il y a moins d'efficacité et ça entraîne les mauvais résultats peut-être de ce début d'année.
Ouais, d'ailleurs, Luke Staines était également un petit peu blessé. Il avait mal aux ischios lors de l'entraînement de lundi soir. Mais bon, pour l'instant, on fait un petit tour au classement. Hugo, ça donne quoi?
Alors au classement, pas de surprise. C'est Paris qui domine avec 30 points. Ensuite, on a un tir groupé, on va dire, avec tout simplement Nantes à 24 points. Nîmes qui est à 22 points. Il y a un petit décalage ensuite qui se fait avec Montpellier et Toulouse. Toulouse qui est donc 5e avec 18 points à égalité avec Montpellier. Donc il va falloir faire très attention si le Phoenix veut accrocher une place européenne d'ici la fin de saison. Ouais. Ça va se jouer sur les prochains matchs.
Ouais, c'est ça. Et on termine avec les matchs de la prochaine journée.
Alors sur la prochaine journée, ça va être des matchs comme d'habitude très intéressants, mais on va en citer trois. Notamment, il y a Paris-Créteil, qui est là le derby francilien par excellence. Ensuite, il y a Dunkerque-Nantes, qui est une très belle affiche. Et puis, sur la journée du mercredi, il y a Nîmes-Aix, qui là aussi est un duel pour l'Europe. Et puis, on va en citer une dernière, ça sera jeudi, c'est le Classico, comme on avait l'habitude de le dire avant. Avant que le PSG arrive, ça sera Chambéry-Montpellier, et là aussi, ça sera une grosse affiche.
Ouais. Exactement. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces informations. Le Phoenix rencontre donc Tremblay. Ça se passe au Palais des Sports André Brouat. Ça se passe mercredi à 20h30.
On quitte maintenant le parquet pour les pavés des rues toulousaines. Lilou Ruel est la meilleure française en free run, un sport où le but est de faire des acrobaties avec le mobilier urbain. Adrien Marchand est allé à sa rencontre pour JT Sport.
Salto, vrille, 16 ans, et Lilou Ruel enchaîne facilement les figures. En octobre dernier, elle a égalé un record de précocité en participant à la plus grande compétition internationale, le Red Bull Art of Motion. Elle était aussi la seule tricolore tous sexes confondus en Italie.
Art of Motion, c'est une compétition que je veux faire depuis que j'ai commencé le parcours. C'est vraiment mon rêve. Le problème, c'était que c'était à partir de 16 ans. Donc j'ai attendu. Et cette année, j'ai eu 16 ans. Donc je l'ai fait. Je m'attendais pas forcément à cette ambiance parce que c'était vraiment... Les gens étaient stressés. J'étais angoissée pendant tout le séjour.
Le free run, Lilou Ruel est tombée dedans il y a 7 ans.
C'est mon voisin qui en faisait dans un club et il m'apprenait quelques petits trucs sur le trampoline. Et un jour, il m'a dit « Viens dans mon club, viens essayer cette pratique, tu verras si t'aimes bien ». Dès le premier cours, j'ai trop aimé. Toutes les semaines, après, j'y suis retournée à ce même club. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai eu le niveau que j'ai aujourd'hui. Ça fait 7 ans maintenant que j'en fais.
Depuis peu, elle a changé de salle d'entraînement pour rejoindre celle de Loïc Georgi.
En termes de capacité, c'est incroyable. C'est un petit gabarit qui vient s'entraîner dans la salle plusieurs fois par semaine. Elle est très discrète, sauf que quand elle est lâchée dans une salle de parcours, elle envoie des figures que très peu de monde peuvent suivre. Elle a un niveau démentiel et puis je pense qu'on va entendre parler d'elle si elle continue à s'accrocher comme ça.
En attendant, Lilou Ruel garde la tête froide. Actuellement en première, elle souhaite réintégrer une école de cascade à Lille pour allier acrobatie et travail.
Merci Adrien pour cette belle rencontre. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, c'est au tour de Maud de nous rejoindre. C'est l'heure du Flash Sport.
d'habitude. Alors, quoi de neuf sur la planète sport cette semaine ?
Eh bien Marine, une polémique a secoué le monde du sport féminin français. Dimanche, 6 joueuses du club de handball de Nantes ont dénoncé dans une lettre ouverte des tests de grossesse réalisés à leur insu lors d'examens médicaux. Le médecin du club a en fait ajouté à ces examens un dosage d'hormones, sans préciser aux joueuses que ce dosage permettait de détecter une grossesse. La Fédération française de handball a rappelé que les médecins étaient libres de prescrire de tels examens, mais qu'ils devaient obtenir un accord formel des athlètes pour effectuer un dosage hormonal. Il s'agit donc d'un manque de communication plus que d'un procédé illégal. Mis à part cette affaire, le week-end a été riche en émotions. Inconnu il y a encore quelques jours, Arnaud Duplantis est entré dans la légende de l'athlétisme en battant le record du monde de saut à la perche pour la deuxième fois. Le jeune Suédois avait déjà effacé le record de Renaud Lavillenie en franchissant une barre à 6,17 m la semaine dernière. Samedi, il a renouvelé l'exploit en passant la barre des 6,18 m. À seulement 20 ans, le perchiste impressionne, d'autant que son saut record a été réalisé dès le premier essai et avec une marge qui laisse présager de belles choses pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Et un autre champion a brillé ce week-end, Maud, c'est Émilien Jacquelin.
Et oui Marine, Émilien Jacquelin a été sacré champion du monde de poursuite en biathlon dimanche, au terme d'un final grandiose. Luttant avec le Norvégien Johannes Bø, champion du monde en titre, pendant le dernier tour de poursuite en Antols, le biathlète grenoblois s'est offert un sprint et une victoire plein de panache. À 24 ans, Émilien Jacquelin est à son plus haut niveau. Il donne à la France sa troisième médaille pour ses mondiaux, après l'argent de Quentin Fillon-Maillet et le bronze de Martin Fourcade samedi sur le sprint. Enfin, côté tennis, Gaël Monfils a remporté pour la deuxième fois consécutive le tournoi de Rotterdam, une semaine après son titre à Montpellier.
Merci beaucoup Maud pour ce tour des sports et merci à toi Arnaud pour m'avoir accompagné ce soir.
Avec plaisir Marine, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci également à Adrien, la technique. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour vivre en direct toutes les rencontres des équipes toulousaines sur notre compte JT Sport. Et tous les podcasts sont disponibles sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Music. D'ici là, bonne semaine sportive à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de JT Sport.